Quelques petites notes avant de commencer ce sermon. Donc la messe sera enregistrée pour ceux qui m'écoutent sur Internet, également pour le Vendredi Saint demain. Donc l'office aura lieu à 5h30, également pour la messe de Pâques à 10h. En plus, vous aurez bien sûr la vigile pascale samedi soir à 22h30, suivie de la messe de minuit. Je tiens à remercier aussi publiquement cet ami de d'Andorre, qui, que vous connaissez, qui prépare, fait toute la technique derrière pour que les gens qui habitent très loin, qui n'ont pas de messe, puissent avoir quelque chose sur Internet. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, c'est aujourd'hui une des plus grandes fêtes liturgiques, fête du Jeudi Saint. Notre Seigneur Jésus-Christ a tenu à instituer le même jour trois choses qui se tiennent, le sacerdoce, l'épiscopat et la Sainte Messe. Et donc, en ce jour, notre Seigneur Jésus-Christ a voulu instituer un mystère extraordinaire pour pouvoir rester parmi nous. Il savait qu'il allait mourir dès le lendemain et qu'après, il allait devoir remonter au ciel après sa résurrection le jour de l'Ascension et que ses apôtres devraient rester tout seuls. Alors il a voulu, chose absolument incroyable, il a voulu qu'il puisse rester avec ce même corps, ce même sens, cette même âme, cette même divinité parmi nous par le Saint Sacrifice de la Messe, renouvellement non sanglant du sacrifice de Calvaire. C'est un mystère tel qu'on comprendra ce qu'est la Sainte Messe le jour où il n'y en aura plus. De la même façon qu'on comprendra ce qu'est un prêtre le jour où on n'aura plus de prêtre. Et vous connaissez cette thèse que je vous ai souvent citée, que la fin du monde arrivera justement le jour où le dernier prêtre disparaîtra. Parce qu'il n'y aura plus à ce moment-là d'accès au corps, au sang, à l'âme et à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que s'il n'y a plus de prêtre sur le monde, ici-bas sur cette terre, il n'y aura plus évidemment de moyens de renouveler ce sacrifice rédempteur de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Alors je voudrais simplement vous aider peut-être à comprendre ce qu'est le prêtre. Je voudrais utiliser trois mots pour expliquer ce qu'est le prêtre. Le premier de ces mots, le prêtre est un paratonnerre. Qu'est-ce que c'est qu'un paratonnerre? Une tige de ferraille qu'on met au sommet des cheminées, de telle façon que si la foudre tombe, ben, l'énergie de l'éclair va passer par le fil conducteur et va aller directement dans la terre et pas brûler la maison. Bien, le prêtre est un paratonnerre dans le sens qu'il se tient un petit peu au sommet de l'édifice chrétien, au sommet de sa paroisse, au sommet de l'âme de ses fidèles, un peu comme quelque chose qui va tirer la foudre. C'est pour ça que les prêtres ont toujours été persécutés. On voit très bien dans les révolutions, en première classe de personne qui est persécutée par la révolution, c'est toujours le prêtre. Pourquoi? Parce que le prêtre, justement, est là pour prendre, en quelque sorte, sur ses propres épaules, malgré son indignité personnelle, prendre, en quelque sorte, les claques du démon. Parce qu'évidemment, le démon ne peut plus attaquer directement notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est au ciel. Notre Seigneur Jésus-Christ étant au ciel, le démon ne peut plus l'attaquer. Donc, il va l'attaquer par l'intermédiaire du prêtre. Parce que le prêtre représente notre Seigneur Jésus-Christ. Il agit in persona Christi, dit la théologie, c'est-à-dire au nom, en la personne même du Christ. Et donc, le prêtre est là, et donc celui qui va devoir prendre en quelque sorte les coups du démon, précisément pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse être donné aux âmes. Notre Seigneur Jésus-Christ a voulu être donné aux âmes par la croix. Et donc, tous nous devons participer à cette croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Parfois, certains fidèles me posent la question un peu de façon stupide, me disent « Mais monsieur l'abbé, est-ce qu'on peut avoir une petite vie bien tranquille en tant que catholique ?» Et je réponds toujours de la même façon en disant « Oui, qu'on est sûr de devenir protestant. » Mais si vous êtes catholique, catholique, celui qui porte la croix. Voilà, c'est comme ça. Et celui qui a porté la croix devant ses fidèles, c'est évidemment le prêtre. C'est pour ça que le prêtre est en quelque sorte un paratonnerre. Il protège l'Église. Et c'est pour ça que le jour où il n'y aura plus de prêtre, il n'y aura plus cette protection. Alors c'est la première raison pour laquelle vous devez prier pour vos prêtres. Le deuxième mot qui caractérise le prêtre est un pont. Un pont, le mot pontife vient de là. Pontife, c'est celui qui fait le pont entre quoi et quoi. Un pont, c'est ce qui cherche, c'est ce qui permet de réunir les deux côtés d'une rivière, par exemple. Mais le prêtre est un pont parce qu'il va réunir le ciel et la terre. Saint Bernard comparait, vous prenez un autre mot pour comparer, pour expliquer cela, utilisez le mot d'aqueduc, mais c'est la même chose. De même que l'aqueduc amène l'eau depuis la source jusqu'à la ville, de la même façon, le pont est celui, ce qui va permettre aux grâces divines de passer de Dieu à la société ici-bas. Le prêtre est donc un pont parce qu'il est celui qui permet en quelque sorte, c'est comme un cordon ombilical qui va permettre de réunir la terre au ciel. Le temporel à l'éternel. Et si ce pont se casse, si ce pont disparaît, eh bien à ce moment-là, il n'y aura plus de moyens justement pour cette grâce du bon Dieu de passer. Et me dire, mais le bon Dieu pourrait se passer du prêtre. Oui, c'est vrai, il pourrait se passer du prêtre. Mais il a voulu, dans sa miséricorde, prendre un intermédiaire. Et il a pris un intermédiaire de ce qui est le plus faible. Le prêtre, c'est pas un Dieu directement. Il représente le bon Dieu. Et pourtant, malgré sa faiblesse personnelle, malgré tous ses défauts, ses péchés personnels, il fait plus que représenter le bon Dieu. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, au cours de la messe, il dit « je ». Il parle à la première personne. « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » Et quand il vous donne l'absolution, il dit « je t'absous de tous tes péchés. » Donc notre Seigneur Jésus-Christ, justement, utilise le prêtre comme un instrument, comme un pont, et il passe par le prêtre pour donner toutes les grâces dont le monde a besoin. En quelque sorte, on peut dire, c'est une expression des saints curés à l'Ars, que le prêtre est celui qui a une petite clé qui ouvre cette malle dont je vous ai déjà parlé, que notre Seigneur Jésus-Christ a rempli des grâces pour toute l'humanité le jour de sa passion. Il a rempli cette malle au pied de la croix, et c'est le prêtre qui a l'accès, qui permet l'ouverture de cette malle pour en puiser toutes les grâces dont vous et moi nous avons besoin. Voilà le rôle du prêtre. Enfin, le troisième mot, le prêtre est une porte. Alors, ces trois mots commencent tous par un P. Donc, le prêtre est aussi une porte. Porte de quoi? Le prêtre est la porte qui ouvre le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Le prêtre est la porte qui ouvre aussi le Cœur Immaculé de Marie. Encore une fois, notre Seigneur Jésus-Christ aurait pu passer directement sans utiliser le prêtre. Il a voulu utiliser l'instrument d'un prêtre. Et précisément pour qu'on puisse voir la toute-puissance de Dieu, le bon Dieu a utilisé l'instrument le plus faible qu'il puisse trouver. Il aurait pu trouver un ange. Ça aurait été quand même nettement mieux, nettement préférable, de pouvoir utiliser la nature angélique plutôt que la nature humaine pour faire passer ses grâces. Non, le bon Dieu a voulu utiliser le prêtre. Et le prêtre, donc, est cette porte qui permet l'ouverture de cette malle dont je vous ai parlé, et aussi l'ouverture du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est dans ce Sacré-Cœur que nous allons avoir ce refuge qui est absolument nécessaire aujourd'hui. Je vous l'ai souvent expliqué, au Moyen-Âge, il y avait ces cités de refuge. Et lorsque une personne qui était poursuivie par la maréchaussée se trouvait refuge dans une église ou dans un monastère qui était protégé par ce doigt de refuge, cet homme était protégé. Bien, le prêtre, c'est celui qui ouvre la porte du Sacré-Cœur pour que nos âmes puissent aller se réfugier dans cette grotte extraordinaire, la grotte de l'amour du bon Dieu. Qu'est-ce que dit notre Seigneur? Venez à moi, vous tous qui ployez sur le fardeau, et je vous referai. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Notre Seigneur Jésus-Christ aurait pu dire, apprenez de moi que je suis le Créateur, Rédempteur du monde entier, il l'a dit aussi d'ailleurs. Mais il a dit, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Donc il se fait tout petit, justement pour que nous n'ayons plus d'excuses et que nous puissions nous approcher de lui sans crainte. Voilà pourquoi il passe par le prêtre. Parce qu'évidemment, le prêtre ayant une nature humaine comme la vôtre, eh bien, peut être plus accessible. On a un peu une certaine frayeur de nous adresser directement à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors le bon Dieu permet justement que le prêtre soit là pour être l'intermédiaire entre les choses du ciel et les choses de la terre. Et si nous avons du mal à comprendre ces choses-là, permettez-moi de vous dire qu'il y a quelqu'un qui les a bien comprises, c'est le démon. Il sait. Il sait que pouvoir couper ce cordon ombilical qui réunit la terre au ciel, il faut supprimer le prêtre. Parce que c'est justement le prêtre qui permet ce cordon ombilical, parce que le prêtre, encore une fois, est la porte, il est le paratonnerre, et il est le pont entre Dieu et nous. Voilà pourquoi le démon n'aura de cesse de supprimer le sacerdoce. Il ne pourra pas le supprimer totalement, puisque Dieu a promis que les forces du mal ne prévaudront point contre son Église. Pourtant, il a réussi à détruire beaucoup de choses. N'oubliez pas que, après que malheureusement, Jean 23 ait ouvert toutes les portes du barrage qui protégeait l'Église contre toutes les idées folles de ce monde, les idées de la révolution, de liberté, d'égalité et de fraternité, tout de suite, qu'est-ce qu'a fait le démon? Il a obtenu 1962-1965, il a obtenu Vatican II, le Concile de Vatican II, première destruction en masse de tout l'enseignement de l'Église. Mais qu'est-ce qu'il a fait juste après? Dès 1968, le démon va attaquer et le prêtre et l'épiscopat. Pourquoi? Parce que la prêtrise vient par l'épiscopat. Donc il a fallu attaquer les deux choses ensemble. En 1968, le démon provoque un autre raz-de-marée dans l'Église en modifiant de façon substantielle le rituel de consécration des évêques et le rituel de consécration des prêtres. Pour assainir la source, comme quelqu'un, si vous voulez, qui met des gros blocs de pierre à l'entrée de la source pour que l'eau de la source ne puisse plus venir irriguer la ville. Et donc, avec ces changements monumentaux de 1968, eh bien, la source du sacerdoce a été tarie. Et une fois que la source est tarie, alors à ce moment-là, il n'y a plus de protection de la messe, et l'année suivante, c'est la destruction de la messe elle-même. En 1969. Donc contre tout ça, qu'est-ce qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ? Notre Seigneur Jésus-Christ, justement, a préservé le sacerdoce. On n'est plus très nombreux comme prêtres, c'est vrai. Mais le bon Dieu a promis, justement, malgré qu'humainement parlant, la situation soit vraiment désespérée, le bon Dieu a promis encore une fois que les forces du mal ne prévaudront point contre son Église. Et souvent, mes fidèles me demandent: mais monsieur l'abbé, alors, puisqu'il y a eu un tel travail de destruction, comment envisagez-vous un retour à une situation normale? Et je réponds toujours de la même façon, j'envisage aucun retour à une situation normale. Il n'y a que Dieu qui peut le provoquer, ce retour. Mais Dieu est Dieu, et il utilisera un instrument pour provoquer justement ce retour à une situation normale. Il n'y a que lui qui peut faire ça. En attendant, que devons-nous faire? Pleurer à longueur de journée? Non, ce n'est pas ce que nous demande le bon Dieu. Il nous demande de sauver tout ce qui peut être sauvé. Il reste quelques prêtres dans le monde? Eh bien, remplissons notre devoir d'État. Il reste quelques familles catholiques dans le monde, quelques catholiques isolés dans le monde? Que cela soit le sel de la terre, la lumière du monde. Qui réfléchissent en quelque sorte ce qu'a dit notre Seigneur: je suis la voie, je suis la vérité, je suis la vie. Les catholiques dans le monde ne sont pas la voie, la vérité et la vie, mais ils appartiennent à l'unique voie, à l'unique vérité, à l'unique vie. Voilà ce qu'il nous faut faire. Et pour que nous ne nous décourageons jamais, le bon Dieu, justement, a permis, nous a donné, a voulu, avec le sacerdoce, nous donner autre chose, quelqu'un d'autre, en fait. Et ce quelqu'un d'autre qui est là pour nous aider à ne jamais nous décourager, c'est sa propre mère. Encore une fois, un don extraordinaire du bon Dieu. Non seulement il se donne lui-même en permettant que par le sacerdoce, par la sainte messe, soit conservé le corps, le sang, l'âme et la divinité, le même corps, le même sang, la même âme, la même divinité, qui vont être immolés sur l'autel d'une certaine façon, sur la croix le vendredi saint. Il a voulu encore donner sa propre mère. Voilà pourquoi Notre-Dame est co-rédemptrice du genre humain. Elle est médiatrice de toute grâce. Elle est Marie-Reine, reine du clergé, reine de l'Église, donc elle est votre reine. Elle est notre mère et notre reine à tous. Alors demandons à la très sainte Vierge Marie de nous donner ces grâces, d'obtenir pour nous ces grâces qui sont tellement importantes justement pour que nous ne nous décourageons jamais. Encore une fois, s'il fallait regarder à ce qui se passe, regarder ces choses qui se passent aujourd'hui uniquement avec un regard purement humain, on se décourage totalement. Alors le bon Dieu nous demande de passer justement au-dessus, de monter au-dessus de ces choses humaines pour voir les choses de façon divine. Essayer de comprendre les choses, de voir les choses telles que le bon Dieu les comprend et les voit, telles que la très sainte Vierge Marie, elle aussi les comprend et les voit, au moins à notre petit niveau. Voilà ces grâces qu'il nous faut demander. Je pense qu'aujourd'hui, en cette fête du sacerdoce, il faut remercier le bon Dieu. Avoir un cœur plein de reconnaissance envers notre Seigneur Jésus-Christ, bon, qui a pas permis que tout disparaisse. Vous avez encore la messe ici, proche de chez vous, remerciez-en le bon Dieu. Pensez encore une fois à tous ces gens qui ont rien du tout. J'ai reçu beaucoup de messages cette semaine dernière de personnes qui disent, Monsieur l'abbé, on est tellement content d'avoir la messe sur vidéo parce que nous n'avions rien du tout. Surtout avec le confinement actuel à cause de cette crise du coronavirus, c'est encore pire. Alors ne nous décourageons jamais parce que notre Seigneur Jésus-Christ a promis justement qu'il écraserait la tête du démon. C'est ce qu'a dit aussi la Sainte Vierge. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Mais elle n'a pas dit, aujourd'hui mon cœur immaculé triomphera. À la fin. Qu'est-ce que veut dire cette phrase un peu mystérieuse? Nous ne savons pas exactement. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que Notre-Dame et notre Seigneur Jésus-Christ remporteront la victoire. Alors ne nous décourageons jamais et allons justement chercher dans cette messe, à chaque fois que nous pouvons assister à la Sainte Messe, justement remplissons notre âme de ce corps, de cette âme, de cette divinité, ce sang de notre Seigneur Jésus-Christ, pour avoir cette force qui nous permette d'écraser le démon, d'écraser le démon, ses pompes et ses œuvres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors bien que nous ayons que deux hommes, nous allons quand même faire la cérémonie très belle du lavement des pieds. Donc vous allez verger simplement votre pied droit.